voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Odile Deck. Ce soir, l'architecture comme une aventure. Bonsoir Odile Deck.
Bonsoir Zoé.
Merci d'être avec nous pour ce quatrième épisode. On va continuer cette conversation sur l'architecture, puisque vous êtes architecte, Odile Deck, et on a évoqué déjà votre formation, on a évoqué vos débuts fracassants avec cette Banque Populaire de l'Ouest dans les années 90, on a évoqué la question, la difficulté d'être une femme en architecture, et là j'aimerais qu'on parle ce soir véritablement de la manière dont vous travaillez en tant qu'architecte concrètement. On va évidemment évoquer plusieurs de vos réalisations dans le détail, mais avant cela, j'aimerais comprendre comment ça commence quand on a un concours, quand on a un projet. Vous avez utilisé le mot enquête à un moment donné.
Aucun projet ne commence de la même façon, parce que tout dépend des conditions dans lesquelles on l'a. Si c'est une commande directe, si c'est un concours qu'il faut faire, pour lequel il faut d'abord faire une candidature et ensuite attendre d'être retenu. Ou bien alors, mais dans tous les cas de figure, la première chose que je fais, moi, c'est de m'organiser pour aller sur place, sur le site. Que ce soit un petit projet, un grand projet, à l'autre bout du monde ou proche, je vais par principe sur le site. Parce que je vais voir, d'une part, l'endroit, rencontrer sans doute la plupart du temps les gens pour qui c'est, ou les personnes qui l'organisent, pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent par rapport à tout ça. Et en même temps, me familiariser avec l'environnement. Parce que quand vous arrivez dans un pays étranger, c'est une autre culture, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de penser. C'est important aussi de les rencontrer et de comprendre quelles sont leurs réactions. Et ça m'intéresse beaucoup de découvrir de toute façon tous ces endroits-là. Et ensuite, les idées peuvent arriver parfois sur place. Quand on visite un site, on a une idée. Parfois dans l'avion de retour, dans le train de retour, et parfois c'est plus long. Ensuite, il y a la possibilité de faire travailler à l'agence, enfin je fais toujours travailler à l'agence, au moins deux personnes, sur le sujet à qui et avec qui je discute d'abord pour leur raconter ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, l'histoire, les idées qui me sont venues, des choses comme ça. Et on commence à faire parfois des maquettes. Pour ceux qui sont capables de faire des petites maquettes d'études, c'est pour ça qu'il y en a autant autour de nous.
Il y en a beaucoup derrière vous.
Oui, il y en a plus de 700 dans l'agence là autour de nous. Mais ce sont des petites maquettes, quelquefois minuscules, quelquefois plus grandes, ça dépend. Et puis, ou bien alors ce sont des dessins, ou bien alors, mais très rarement, ce sont déjà des dessins à l'ordinateur, mais ça c'est beaucoup plus rare. Je tiens toujours à ce qu'on commence d'abord par regarder, expérimenter, tâtonner sur quelque chose qui est assez manuel, assez physique. Parce que l'aller-retour est plus compliqué, plus lent. Le travail de la main avec la relation avec son cerveau est totalement différent de la relation entre l'écran et le cerveau. Je dis toujours, et je le dis aussi à mes étudiants, que la distance entre le bout de sa main et l'hésitation du bout de sa main et son cerveau est un certain temps, alors que la distance entre l'écran et l'œil est très très courte. Et qu'entre le cerveau et l'œil, c'est très, très, encore plus rapide. L'avantage de la main, c'est qu'elle peut se tromper. Elle hésite, et en se trompant et en hésitant, on trouve d'autres choses. Alors qu'avec l'ordinateur, ça doit être précis. Donc c'est pour ça que j'aime ce temps du travail à la main, qui est juste de la manipulation pour expérimenter des idées. Donc ça, c'est une chose.
Et parce qu'il y a eu quand même, je fais une petite pause là-dessus, un changement de paradigme, effectivement, dans votre métier, comme dans beaucoup de métiers avec la numérisation. Bien sûr. Des architectes qui travaillent essentiellement aujourd'hui avec les écrans. Vous avez eu, depuis toujours, une architecture qu'on a qualifiée d'high-tech, qu'on a qualifiée de connectée à vos débuts. D'ailleurs, c'était l'un des reproches que parfois on vous adressait. Et pourtant, c'est important pour vous toujours ce geste de la main.
Oui, parce que c'est cette relation avec la tête, avec le penser. Parce qu'on ne pense pas quand on... Enfin, j'ai toujours trouvé qu'on ne pensait mal quand on travaillait directement sur l'ordinateur. Puis moi-même, je suis totalement malhabile à dessiner à la machine, je ne sais pas. Jamais derrière l'épaule de quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un travail de workshop, en fait, d'aller-retour qui vont quelquefois vite, quelquefois qui sont plus lents, quelquefois ça dépend aussi de mon agenda, du temps que j'y consacre. Et ça fait des discussions qui peuvent durer un temps plus ou moins long. Donc tout ça, ce n'est qu'une adaptation et qui est, comme je dis, toujours variable. Parce que je dis souvent et même toujours que l'architecture, pour moi, est une aventure. Et que cette aventure, je l'assimile au voyage en bateau, à la voile, vers l'horizon. Puisque l'horizon est une ligne que vous voyez quand vous êtes sur la côte et que vous voyez au-delà, et qui est vers lequel vous allez lorsque vous partez en navigation à la voile. pour naviguer à la voile, à la différence de la navigation moteur, c'est que vous devez négocier. Vous négociez avec le courant, vous négociez avec le vent, avec le soleil, avec l'orientation, etc. Et vous ajustez votre voyage. Et vous arrivez à un point que vous avez défini auparavant, mais qui est à nouveau devant vous, puisque l'horizon se déplace en permanence devant vous. Donc c'est une aventure qui ne finit jamais, et qui fait qu'une fois que vous êtes arrivé à votre point, au point de destination, vous ne faites que continuer pour aller au-delà. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est, pour moi, j'assimile le processus de conception un peu à la même chose. C'est-à-dire que c'est une aventure. Et cette aventure est une découverte en même temps. Et c'est pour ça que parfois aussi, quand j'arrive le matin au bureau, à l'agence, et que je parle avec les personnes avec qui je dois travailler, je leur dis, ce matin, en me brossant les dents, j'ai pensé que... Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on se brosse les dents le matin, c'est un geste machinal. Et ce geste machinal, vous n'y pensez pas, parce que vous le faites tous les matins, donc vous n'avez pas besoin d'y penser. Mais comme vous n'y pensez pas, votre cerveau travaille. Et c'est ça que j'aime dans le cerveau, c'est que le cerveau, que ce soit allongé dans un avion, sans penser à quoi que ce soit, en rêvassant dans un train ou en se brossant les dents le matin, sans réfléchir, votre cerveau travaille et vous apporte ce qu'il a, des choses, des connexions qu'il a fait de lui-même par rapport à ce que vous lui avez apporté la veille. Et ça, c'est fantastique et c'est magique. Et c'est ça qui vous donne, c'est ce qu'ils appellent l'étincelle créative, et c'est ça qui vous arrive un matin. Ça arrive à tout moment, pas seulement en se brossant les dents.
Nous avons évoqué ensemble, Odile Deck, à la fois la Banque Populaire de l'Ouest, nous avons évoqué aussi le Macro, l'extension du Macro que vous avez réalisée à Rome.
Qui est le musée d'art contemporain de la ville de Rome.
En France, peu de gens le savent, quoique ça commence. Mais vous aviez fait un premier musée, vous allez me dire d'ailleurs chronologiquement, lequel des deux est arrivé en premier, le FRAC Bretagne.
Est arrivé après. Oui. J'ai gagné le concours du FRAC 5 ans après le concours du Macro.
Et livré un petit peu après, mais juste paradoxalement juste après.
Deux ans après. Mais parce que le temps italien et le temps romain est beaucoup plus long que le temps breton.
Le temps breton, on en parle souvent. Voilà. J'aimerais qu'on en parle de ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment, j'ai l'impression, qui dit beaucoup de choses aussi de votre architecture. On retrouve pas mal, est-ce qu'on peut dire de constantes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des constantes dans votre travail?
Je ne sais pas parce que je n'ai pas ni d'idéologie ni de doctrine, donc je n'ai pas d'idée a priori. Et les idées viennent, comme je vous le disais, de façon un peu impromptue. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même quelques répétitions, il y a quand même quelques idées qui reviennent au bout d'un certain... Quand on a travaillé pendant aussi longtemps que moi, obligatoirement, il y a des choses qui reviennent et des réflexes qui se font. Vous parliez du FRAC, et dans le FRAC, effectivement, j'ai réappliqué les mêmes principes que ce que j'avais adopté pour le Macro, à savoir l'idée d'un parcours, l'idée d'une déambulation, l'idée d'une découverte au travers du parcours et de la déambulation dans un bâtiment qui vous permet d'aller visiter tel ou tel endroit dans le musée. Mais en même temps, comme les conditions étaient totalement différentes, puisque le Macro, c'est un bâtiment en deux niveaux simplement, puis un toit, le FRAC, c'est quelque chose qui se répartit sur 5 niveaux, c'est obligatoirement différent. Et ça ne peut pas se faire de la même façon. Et le parcours devient différent. Donc c'est pour ça que même s'il y a des idées similaires, elles sont appliquées ou traitées de façon totalement différente. Et procurent des sensations ou des sentiments différents aux gens qui les parcourent.
Et l'idée principale, c'est la déambulation
Parce qu'on est dans un musée. Et parce que, si vous regardez au 19e siècle et au début du 20e siècle, les musées, quand vous prenez le Louvre, quand vous prenez les grands musées, ce sont des musées dans lesquels on rentre dans une pièce, puis dans une autre pièce, puis dans une troisième pièce, etc. Et on passe de pièce en pièce. Lorsque Frank Lloyd Wright, l'architecte américain, au milieu du 20e siècle, construit le Guggenheim à New York, il fait une rampe qui se promène à l'intérieur de l'espace, et des pièces autour. Et les pièces, on peut y aller de pièce en pièce, mais on peut aussi prendre la rampe, et en prenant la rampe, on peut choisir le passage par lequel vous voulez aller, sans forcément faire la première pièce avant la troisième, dans le sens que vous voulez. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est de ça que j'ai tiré l'idée de faire une déambulation systématiquement, parce que j'aime aussi que dans un musée, on parte à la découverte. Qu'on soit pas obligé par le curateur ou par le commissaire de l'exposition d'aller d'un endroit à un autre et qu'il y ait des possibilités d'impromptu, de découverte, comme je disais, mais en même temps de retour sur soi-même pour, alors qu'il parfois pose des problèmes quand il y a trop de monde, mais c'est pas grave. C'est important de permettre aux gens qui visitent d'être libres, ce qui est pas toujours évident dans un musée.
Dans ce musée, le FRAC Bretagne, il y a une autre caractéristique, quelque chose qui était d'ailleurs très frappant à l'époque, prouesse technique, c'est cette fameuse grande galerie qui est en porte-à-faux. Est-ce que vous pouvez essayer de nous raconter à nos auditeurs qui ne le voient pas l'idée de cette grande galerie? Et là, c'est une prouesse technique assez importante.
Oui, j'aime les porte-à-faux. J'aime partir au-delà du vide. Encore une fois de plus, c'est partir au-delà. Et j'aime faire des choses qui sont au bord de la limite. j'aime prendre des risques, mais en même temps, savoir les faire, savoir les mesurer et les faire proprement. Et j'ai la chance d'avoir un ingénieur avec moi qui travaille formidablement bien.
Philippe Clément.
Maintenant, on n'a même plus besoin de se voir quand on démarre un projet. Je lui dis les idées, je lui expliquer les idées vers lesquelles on va. Je l'appelle, on a une longue conversation au téléphone tous les deux. Je lui dis, tu sais, j'ai pensé à le faire comme ça, et toi, et qu'est-ce que t'en dis, etc. Oui, il me dit, alors. Et je me souviens que le plus grand porte-à-faux que j'ai fait, c'est pour le bâtiment de GL Evans à Lyon, où j'ai 25 mètres de porte-à-faux avec 4 étages au-dessus.
Dans le quartier des Confluences.
Dans le quartier des Confluences, exactement, qui est le siège de GL Evans. Et quand je l'avais appelé et que j'avais expliqué ce qu'on faisait et que j'avais envoyé un petit croquis, il m'avait dit, écoute Odile, de toutes les façons, on le fera, t'inquiète pas, on y arrivera. Donc, j'ai totalement confiance en lui et c'est vrai qu'on y arrive à chaque fois. Et c'est à chaque fois une prouesse qu'on fait parce que j'aime, effectivement, c'est la même chose un peu par rapport à l'horizon, c'est l'idée de, on va au-delà, on va plus loin, on essaye de c'est pas simplement dire je veux montrer que je suis forte, etc. C'est dire on va plus loin et on essaye d'apporter plus au bâtiment par rapport à ce qu'on vous a demandé. Et donc dans le FRAC Bretagne, il y a effectivement on entre par une extrémité parce que le bâtiment fait 50 mètres de long. On rentre d'un côté, on entre dans un hall qui est un grand hall vertical. Comme le bâtiment est tout noir à l'extérieur, on a l'impression qu'on va rentrer dans une boîte noire, mais on rentre dans une boîte totalement lumineuse parce qu'il y a une grande verrière et un grand vide vertical
avec un puits de lumière,
un grand puits de lumière qui traverse tout le bâtiment et qui donne la lumière intérieure. Et puis on commence à partir le long de la façade. Entre la façade et l'auditorium qui vous pince et vous projette sur la façade pour vous reprojeter vers dehors, pour aller jusqu'au bout. Et là, on a passé tout le long des 50 mètres sous la grande salle d'exposition qui fait la longueur entière du bâtiment au-dessus, mais qui ne touche pas l'auditorium qui, à 80 cm, elle s'arrête. Et entre les deux, il y a un vide. Donc on voit bien que les deux ne sont pas continus et qu'il y a un porte-à-faux, on le voit. Mais on le voit que si on le regarde et que si on l'observe autrement, c'est pas la peine, on le voit pas. J'ai pas besoin de démontrer non plus. Quand on disait dans les années 80 ou au début des années 90, quand on faisait la Banque Populaire de l'Ouest, qu'on était high-tech, et c'est vrai que c'était inspiré du mouvement high-tech des Anglais à l'époque, j'aime aujourd'hui l'idée du soft-tech. C'est-à-dire qu'en fait, c'est autant sophistiqué, c'est autant technologique, mais en même temps, on n'a pas besoin de faire la démonstration de ce qu'on fait. Et c'est aussi complexe, aussi particulier, mais on n'est pas obligé de raconter tout ce qu'on fait. C'est pour celui qui peut le comprendre et qui veut bien le voir et partir à la découverte, il le comprend. Les autres, ben c'est pas grave, ils voient quelque chose qui marche tout seul, qui vient, qui fonctionne.
Pas show-off, on va dire.
Non, pas du tout show-off.
Vos matériaux de prédilection, on l'a dit, Odile Deck, on en a beaucoup parlé, ce sont effectivement le métal, le verre, un intérêt qui va et qui vient pour le béton. Là, vous nous dites qu'aujourd'hui, on aimerait bien que vous travailliez du bois. Il y a aussi toute cette problématique de l'écologie en architecture. Comment est-ce que vous la regardez? Comment est-ce que vous la sentez? Cette façon qu'a l'architecture d'essayer de résoudre ce grand défi avec parfois des contraintes et parfois peut-être des vœux pieux.
Je ne suis pas convaincue à 100% que c'est parce qu'on construit en bois qu'on est plus écologique. Parce que, pour la raison très simple, c'est que pour pouvoir construire en bois, il faut qu'il y ait beaucoup de forêts. Et que ces forêts, la plupart du temps, les bois, ils arrivent du nord de l'Europe, ou ils arrivent pour l'instant un peu aussi de l'est de la France, mais il n'est pas forcément local. Et le bois qui est le plus facile à renouveler, c'est le pin. Et je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'avoir sur la terre entière des forêts de pin pour pouvoir renouveler et fabriquer du construction en bois. Donc, sous prétexte que c'est renouvelable et recyclable. Enfin bon, ça, c'est pas grave.
Peut-on parler peut-être du cargo? C'est cette réhabilitation des anciens entrepôts McDonald's que vous avez fait à Paris, qui est un incubateur de start-up. Mm-hmm. Quel était le défi sur ce bâtiment-là, qui est un bâtiment qui est très surprenant quand on le croise? Il y a ce motif du rond, de la bulle, qui revient sans cesse.
En fait, on est 15 à travailler au-dessus des anciens entrepôts McDonald's qui font 600 mètres de long. Et moi, j'ai un tronçon. Et dans ce tronçon, je ne sais pas si vous connaissiez les entrepôts McDonald's auparavant, c'était deux niveaux de béton allongés le long du boulevard McDonald's et sur lequel, quand la ville de Paris l'a acquis et a fait des études, ils ont constaté qu'avec la force de la structure, permettait de porter 6 niveaux au-dessus. Donc ils ont décidé, d'une part, de creuser en dessous pour faire 2 niveaux de parking, à l'intérieur de cet entrepôt, de transformer ça en lieu commercial, et au-dessus, de construire pour une grande part des logements. Il y a 2 immeubles de bureaux, il y a mon incubateur, et après ça, ils ont fait des équipements sportifs et des écoles. Donc au total, c'est une ville en soi, tout en longueur, comme ça, sur l'ancien entrepôt McDonald's. Et moi, je savais que je faisais un incubateur pour start-up, pour la ville. Et je me suis dit, mais c'est pas un immeuble de bureaux. Parce qu'un incubateur de start-up, ce sont des gens qui travaillent différemment, qui pensent différemment. Donc je me suis dit, voilà, tout bêtement, c'est tout simple. C'est un incubateur d'idées. Donc les idées, c'est quoi? C'est des bulles. Et les bulles, on va les mettre sur la façade. Et Ça m'a pris beaucoup de temps de l'obtenir au moment du permis de construire. Parce que d'une part, le client qui était quand même un promoteur avait du mal à comprendre qu'avec mes bulles, j'arrivais à faire la même quantité de lumière pour entrer dans les bureaux qu'avec des fenêtres normales. Et il a fallu faire plein de démonstrations pour que ça marchait. Ensuite de ça, c'était quand même un bâtiment qui allait devenir atypique dans le tissu parisien. Et celui qui l'acquérait, qui était une société de la ville de Paris, le directeur était très inquiet en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. » Donc, il a fallu beaucoup de temps. Ça a pris un an et demi d'obtenir le permis. Et en même temps, j'ai travaillé la façade sud avec une façade blanche percée de bulles noires et la façade nord en façade noire. Et entre les deux, j'étais la seule qui avait une façade S, puisque je donnais sur les équipements de logement de sportifs. Et donc, j'ai alterné le noir et le blanc. Donc, c'est devenu un bâtiment totalement opart, si je puis dire, noir et blanc. Et à partir du moment où ça s'est retrouvé comme ça, je me suis dit, j'ai dit, bon, bah maintenant, le motto, le leitmotiv dans le bâtiment, tout sera toujours noir et blanc et rien d'autre. Et on a vraiment décliné le noir et blanc partout à l'intérieur.
Parlons de votre couleur quand même, Odile Deck, si vous le voulez bien. Votre
couleur le noir.
Quelle couleur?
Je ne sais pas.
Serait-ce vraiment le noir? Aujourd'hui, vous êtes habillée en noir, hier, vous l'étiez aussi.
Ça fait plus de 30 ans, 40 ans que je suis comme ça.
Et que vous construisez aussi en noir?
J'ai commencé à oser utiliser le noir à partir du macro. Je ne l'ai jamais utilisé dans les bâtiments auparavant. Mais c'est vrai que quand j'ai fait le macro, quand je me suis retrouvée à travailler sur le hall intérieur une fois qu'il était construit et qu'il fallait peindre les bétons, je pensais au départ les faire blancs, comme tous les musées d'art contemporain parce qu'ils sont blancs. Puis je me suis dit que ce n'était pas forcément obligatoire. J'ai commencé à faire des tests en gris et à un moment, j'ai basculé vers le noir carrément. Et à ce moment-là, on a tout peint en noir, y compris les petits appareils techniques qu'il fallait mettre sur les murs et tout ça. On a tout fait en noir et je me suis rendu compte que ça marchait très très bien. Et que même le jour de l'inauguration, le directeur du musée qui avait monté la grande exposition a commencé à accrocher des pièces d'art sur les murs en noir. Et je me suis rendu compte que le noir était une surface, parce qu'on dit toujours que les pièces d'art contemporain, il faut les faire sur des murs blancs pour que ce soit, parce que c'est un mur neutre. Et bien sur le noir, ça faisait un autre neutre qui était différent, mais qui marchait aussi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et à ce moment-là, pourquoi pas ne pas appliquer à mes bâtiments la punition que je m'inflige à moi-même?
Mais c'est quoi alors cette couleur? Et je sais aussi que vous dites que vous collectionnez des objets noirs, même s'ils ne sont pas véritablement noirs, mais que vous voyez comme noirs.
Oui, ma collection d'art est basée sur le noir, sur une couleur, ce qui n'est pas habituel, parce qu'habitude c'est des thèmes, les gens ont des thèmes ou des médias, des choses comme ça. Moi, c'est le noir. J'ai décidé le jour où j'ai commencé à collectionner de n'acheter que du noir, ou ce que moi je considérais comme noir, que je les vois noirs, même s'ils ne le sont pas forcément. Mais Soulage et Matisse disaient que le noir est une lumière, donc pourquoi pas, et c'est vrai. On peut travailler le noir, on travaille à condition qu'on travaille la matière, mais pas toujours, ça dépend. Et je n'utilise pas toujours du noir et pas tout le temps du noir dans tous mes bâtiments malgré tout. Parce que tout ne s'y prête pas et tout ne permet pas de le faire. Mais dès que je peux le faire, je le fais.
Et le rouge, qui est une couleur importante, dont vous avez dit dans plusieurs interviews que j'ai lues, le rouge n'est pas ma couleur, mais elle permet de faire signe.
Je ne dirais pas que ce n'est pas ma couleur. Elle est venue depuis déjà longtemps dans mon architecture, et elle est venue comme une espèce d'énergie à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur en contraste avec le noir. Et ça, c'est dans les premières images où on a commencé à mettre le rouge, je me suis rendu compte, et en particulier pour le frac, que c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait très bien et qui donnait une énergie dans le bâtiment et dans l'espace. Et à ce moment-là, quand il a fallu choisir le rouge pour le faire, pour le réaliser, j'ai repris un rouge que j'avais déjà utilisé dans les années 90 sur un pignon d'un bâtiment à Nantes. C'était un pareil pipette en béton et j'avais décidé que le pignon était une coupe, comme si on coupait un bras, et donc c'est un rouge. Et j'avais l'échantillon à l'agence, qui est un grand échantillon de papier, avec un rouge un peu orangé, particulier. Et chaque fois qu'on me dit « mais quel rouge vous utilisez ?», je découpe un petit bout de papier, je le donne à l'entreprise et elle doit me le copier. C'est jamais totalement le même, malgré tout.
Parlons d'une de vos œuvres d'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez le mot œuvre, d'une de vos réalisations, c'est le restaurant de l'Opéra Garnier. Le fantôme. À l'intérieur, il y a aussi du mobilier dessiné par vous. On va parler du design d'objets aussi. Et là, il y a du rouge.
Oui, il y a du rouge. Il y a du rouge dans la moquette, sur la moquette qui est installée dans la mezzanine et le tapis qui descend l'escalier. Mais je suis assez désespérée. Enfin, maintenant, j'ai un peu pris mon parti. Le propriétaire a changé. Ils ont totalement transformé le restaurant et ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais fait. Donc, mon œuvre n'est plus là.
Ça arrive aussi quand on est architecte.
Oui, mais on doit prévenir. Je trouve qu'il y a une incorrection totale de la part de cette personne qui s'est comportée, comme je lui ai dit, comme un cow-boy. Il a tiré d'abord et vérifié si le cadavre vivait encore après derrière. Il n'a pas aimé que je le traite de cow-boy, mais ce n'est pas grave.
Sur la question de la finitude, justement, des bâtiments, des réalisations que vous faites, vous y pensez, vous n'y pensez pas?
La finitude, c'est leur histoire.
Leur histoire, la manière dont elles vont vieillir, la manière dont elles peuvent être détruites, modifiées?
Écoutez, je commence à avoir une un moment, c'est très étrange que vous me posiez cette question, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que les bâtiments avaient une vie, et qu'ils pouvaient avoir une vie et plusieurs vies à l'intérieur. Enfin, je le pense toujours. Et d'ailleurs, la BPO même avait déjà eu des transformations, et j'avais vu, ça ne m'avait pas dérangé plus que ça. Mais un jour, je suis appelée par le directeur général de la Banque Populaire, qui m'annonce qu'on va détruire mon bâtiment, et qu'on va faire autre chose sur le terrain. Donc, je l'ai appris par téléphone plus exactement. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un coup de poing dans l'estomac. Et ça m'a surprise, parce que moi, j'avais ce bâtiment, ça fait déjà 20 ans, quand on m'a dit ça. Et j'ai dit, j'annonce ça auprès des gens de l'agence, je dis ça à quelques amis, ils me disent, mais Odile, tu ne peux pas laisser ce bâtiment se faire démolir. C'est pas possible. Je dis, d'accord, ok, alors on va se battre. Donc on s'est battu pendant un été, pendant 2 mois, et on a réussi à le sauver. En appelant le monde entier, tous les grands architectes du monde, qui tous connaissaient ce bâtiment, parce qu'il avait eu beaucoup de prix dans les années 90. Et puis maintenant, le bâtiment, j'ai même assisté au jury pour la transformation du bâtiment, pour l'évolution et la construction d'autres bâtiments à côté. Et rétrospectivement, je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû le laisser se démolir. Parce que les bâtiments ont une vie qui peut être relative. Ils ne sont pas là pour toujours, aujourd'hui. Et en même temps, j'en ai toujours les photos, donc je n'aurai jamais de regrets. Et c'est un peu après ce qui se passe avec l'opéra que je me dis ça. C'est-à-dire que je me dis, mais finalement, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs à ce cow-boy, c'est qu'à la limite, s'il n'était pas content, il avait qu'à le démolir et que ça ne m'aurait pas dérangé qu'il le démolisse. Parce que je savais depuis le début que ce n'était pas fait pour toujours, non plus. Et donc, à la limite, pourquoi pas? J'en ai toujours le souvenir. Donc, ce n'est pas très grave qu'un bâtiment disparaisse.
Et les objets, vous avez dessiné beaucoup d'objets. Vous avez dessiné des objets à la fois pour ce restaurant, à la fois au macro, je crois que
j'ai commencé beaucoup.
Il y a cette chaise, vous avez fait des luminaires, vous avez fait des corbeilles à pain. Il y a tout un lien aussi avec la cuisine. J'ai l'impression que la cuisine vous inspire beaucoup.
La cuisine est importante. Effectivement, la nourriture et la cuisine, c'est important. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas être un bon architecte si on n'aimait pas manger et boire.
Donc, pourquoi donc?
Parce que ça veut dire vivre, quelque part. Donc si on ne sait pas vivre, on ne sait pas permettre aux autres de vivre dans vos bâtiments. Pour moi, c'est fondamental. Et ça fait partie de la culture des pays dans lesquels on va. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent que quand je vais dans une ville où je ne suis jamais allée, que je vais rencontrer des personnes que je ne connais pas, j'aime aller déjeuner ou dîner avec eux pour pouvoir comprendre avec eux comment ils socialisent, comment on vit dans ce pays-là, le fait de prendre un repas ensemble. Et ça me fait comprendre beaucoup de choses sur la façon dont ils vivent ensemble.
Vous êtes, parmi les architectes, celle qui fustige le plus le star-architecte, l'architecte très personnifié, l'architecte dont on encense le caractère très individuel, très artiste. Vous dites, on ne fait ce métier pas pour nous, mais on fait ce métier pour les autres. Qu'est-ce qui vous gêne peut-être dans la manière dont l'architecture, ces 30, 40 dernières années, a, disons, peut-être porté au pinacle un nom, une personnalité, une manière de faire? Qu'est-ce qui vous gêne peut-être dans ce système?
Non, ça a toujours existé, parce que même Le Corbusier, dans son temps, était très, très connu, étant individualisé, son architecture individualisée. C'est pas tant ça, c'est la façon dont on considère l'architecte comme une star, et que l'architecte, après, se prend pour une star. Et que dans son comportement, il se comporte comme une star. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. Et c'est pour ça que quand on me dit que moi aussi, je suis une star architecte, je réponds non. Parce que moi, je suis une architecte. Et c'est tout.
J'ai relu une interview de vous dans les années 80. Vous dites que vous auriez envie de construire une tour à Paris, à ce moment-là.
Dans les années 80. Eh bien, il s'avère que j'en construis une actuellement, mais à Barcelone. Voilà, donc pas à Paris, à Barcelone.
Est-ce que Paris est une ville qui a besoin de tours? Vous avez certainement suivi cette énorme polémique autour de la tour Triangle.
Oui. Je pense que Paris est une ville musée et que Paris a besoin de bouger. Que Paris est trop figé et que... Elle est ennuyeuse à cause de ça. Enfin, moi, personnellement, je l'ai toujours sentie comme ennuyeuse. Et à force de bouger, d'être à l'étranger, d'avoir des personnes à l'étranger qui me disent « Mais vous habitez dans une ville merveilleuse », je la regarde avec un autre œil et je me dis quand je reviens, effectivement, c'est assez joli. Je dis bien, c'est assez joli. Mais en même temps, je me dis que c'est dommage que l'on puisse pas faire bouger la ville, que l'on puisse pas la modifier, qu'on puisse pas la modeler, la remodeler, et qu'on se bloque totalement sur ce qu'a défini Haussmann et le gabarit d'Haussmann et le tracé d'Haussmann. Parce que quand même, c'est pareil, ça fait juste 100 ans. Haussmann, c'était la fin du 19e. Pourquoi pas, aujourd'hui, refabriquer autre chose?
Odile Deck, vous nous racontiez que... Au bout de 2 jours, les journalistes, au moment de l'incendie de Notre-Dame, étaient venus vous interroger, 2 jours après avoir interrogé des architectes hommes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat très nourri, très fort, autour de ce qu'il faut faire Quant à la reconstruction de Notre-Dame, faut-il reconstruire à l'identique, un identique qui serait celui de Viollet-le-Duc, ou faut-il innover? Le débat est très très fort. Comment vous le regardez? Déjà, est-ce que ça vous fait plaisir que cette question suscite autant de passion?
Je pense qu'il faut la reconstruire, effectivement. Je pense qu'on se retrouve inévitablement dans ce genre de situation, exactement comme toujours en France et comme toujours dans plein d'endroits, dans le débat entre les anciens et les modernes. Parce que c'est inéluctable. On a eu ça pour la pyramide du Louvre, on a eu ça pour Beaubourg, donc c'est inévitable. Et c'est normal, et c'est sain, parce qu'en même temps, ça fabrique du débat, et ça permet aux gens de s'exprimer. Je pense que la reconstruction est identique. Il ne faut pas oublier que cette cathédrale, elle existe déjà, elle a existé, elle a été construite en tant que cathédrale gothique au XIIIe et au XIVe siècle, ou au XIIe et XIIIe siècle, sur les bases d'une cathédrale romane auparavant et d'un temple païen préalable. Donc c'est déjà une cathédrale, c'est un objet qui a bougé. Elle a été complètement mise en déshérence après la Révolution, et on a lancé un concours pour sa rénovation que Viollet-le-Duc a gagné au milieu du XIXe siècle. Donc c'est une histoire successive, c'est pas une histoire unique. Et c'est pas une seule histoire. Donc le bâtiment n'a pas qu'une seule vie, il en a déjà eu plusieurs. Donc pourquoi pas lui redonner une nouvelle vie au XXIe siècle et fonctionner comme Viollet-le-Duc, qui disait qu'un bâtiment, la rénovation d'un bâtiment, c'est peut-être lui retrouver un sens global qu'on n'aurait pas pensé auparavant. Donc pour moi, il n'est pas nécessaire de la reconstruire à l'identique. Faire une construction avec une charpente de bois aujourd'hui, avec la quantité de bois que ça demande, je trouve ça une aberration totale. C'est que j'imagine pas qu'on ait tailler une gigantesque forêt pour prendre la quantité de bois dont on a besoin pour faire ça. Parce que ça serait criminel par rapport à ce qu'on dit par rapport à la nécessité de garder les forêts. Donc je trouve ça stupide. Donc aujourd'hui, je pense que sa charpente, elle devrait être en métal. Ça, c'est clair. Et au-dessus de la voûte, on n'aurait plus forcément cette forêt de bois qu'on avait auparavant. Et on aurait un volume qui pourrait être fait, qui permettrait d'ajouter un espace dans la cathédrale. Ensuite, l'aiguille qu'a fait Viollet-le-Duc au-dessus, elle est elle-même une prouesse. Parce que c'était 93 mètres de haut, c'était extrêmement fin, c'était construit en bois et en plomb. On ne va pas la faire en bois et en plomb aujourd'hui, c'est absurde. Donc c'est pour ça que j'ai toujours répondu à cette question, que moi ce que j'irais faire, c'est que si je me retrouve à faire le concours, je vais d'abord aller chercher un très bon ingénieur, et je vais aller commencer à m'interroger sur et aller rechercher les matériaux les plus performants que je puisse trouver aujourd'hui. Et il y en a. Et pour essayer de trouver quelque chose le plus solide, le plus expressif de ce que serait le 21e siècle dans cette recherche-là. Et après ça, cette convergence entre un matériau, un ingénieur et un architecte, je me poserai la question de quelle forme elle doit avoir. Mais je n'ai pas l'idée d'une forme a priori, même si le toit doit être construit comme un toit et la flèche, une flèche. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est? Chacun, je ne sais pas. Je vais faire la candidature et je vais participer, c'est sûr.
Demain, nous verrons que vous essayez aussi de repenser l'enseignement de l'architecture. Nous en parlons demain. Merci beaucoup, Odile Deck.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Odile Deck. À voix nue, réalisation Laurent Polleret. Prise de son Fabien Gosset, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.